Parole d'auteur. Parole d'auteur, Christophe Hein.
Aujourd'hui, je vous propose une émission pas comme les autres. L'idée m'en est venue à la rentrée dernière, au cours de laquelle l'une de mes invitées avait dit en parlant de son club de lecture, je cite, qu'elle aimait s'y retrouver avec des lecteurs et des lectrices avertis différemment sur les réalités du style et de la vie. J'ai souhaité la recevoir à nouveau avec d'autres lectrices pour qu'ensemble nous en apprenions un peu plus sur ces clubs où la lecture, passe-temps solitaire, devient une pratique sociale. En ces temps de prix littéraire, je voulais aussi profiter de leur venue à ce micro pour qu'elles nous parlent d'un même livre, primé en 2024, qu'elles ont lu. De cette expérience assez simple, elles nous feront partager toute la richesse d'une lecture croisée. Peut-être vous donneront-elles envie de lire ce livre ou d'autres livres qu'elles nous recommanderont, afin qu'à votre tour, vous puissiez les conseiller ou les offrir. Bonjour à vous quatre,
bonjour
Lucie, Mégane, Lucie et Alix, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comme je l'ai dit en introduction, trois d'entre vous sont venus au micro, à ce micro même de Radio Présence, dans cette émission parler littérature. Par ordre chronologique, l'année dernière, Lucie, vous étiez venue parler de médecine et de littérature. Vous êtes médecin en milieu psychiatrique. Vous nous aviez parlé de la figure du médecin écrivain. Et vous aviez laissé derrière vous quelques prescriptions littéraires.
Tout à fait.
Voilà. J'espère que vous allez bien.
Je vais bien.
Très bien. À vos côtés se trouvent Alix et Lucie, enseignantes, professeurs de lettres, qui étaient venues nous parler à la rentrée de la transmission de la littérature, de la transmission de la lecture plaisir à leurs élèves. Nous avions lu Rainer Maria Rilke et parlé du poète Georges Perros. Bon, j'espère que vos élèves sont bien conscients de la chance de vous avoir comme professeur.
Mais j'espère. Ils ont intérêt.
Voilà. Et donc, c'est à cette occasion, Lucie, au cours de cette rencontre, que vous aviez évoqué votre expérience de club de lecture. Mais on voulait en savoir un petit peu plus, car vous nous aviez dit que c'était pour vous le moyen de retrouver le sel des salons littéraires. Alors, ce sel, il avait piqué notre curiosité, ma curiosité et celle d'Alix, évidemment, au point qu'on s'était dit qu'on pourrait s'inscrire. Et vous avez eu la gentillesse de revenir, mais cette fois accompagné, alors que dois-je dire, de votre acolyte, de votre consoeur, de votre partenaire.
De mon ami.
Voilà, j'imagine. Voilà, je ne sais pas comment la nommer, Mégane, qui elle aussi fait partie de ce fameux club de lecture. Mais on va rentrer plus avant dans la thématique. Mais d'abord, Mégane, puisque c'est votre première fois, j'aimerais que vous vous présentiez en deux mots et dire surtout quelle lectrice vous êtes.
Oui, merci Christophe. Alors, Mégane, j'ai la trentaine et pour ma part, je travaille dans le milieu judiciaire. Concernant la lectrice que je suis, ça a pas mal évolué ces dernières années. Je suis passée d'une lectrice irrégulière et compulsive puisque j'avais la fâcheuse habitude quand j'ouvrais un livre de plus pouvoir en décrocher, donc je m'astreignais à lire que pendant mes congés. Et ensuite, un peu avant le club de lecture et plus encore depuis le club de lecture, je suis devenue une lectrice plus régulière. Voilà, toujours dans la lecture plaisir.
Très bien, mais écoutez, bienvenue dans cette émission. Hein. Voilà, on a pour projet d'insuffler le goût du livre aux auditeurs et aux auditrices de Radio Présence. Alors, pour entrer de plein pied dans cette thématique des clubs de lecture, de lectrices et de lecteurs, vous avez dit, Lucie, retrouver le sel des salons littéraires. Alors, c'est tout un programme. Et j'aimerais savoir où a germé cette idée. Est-ce qu'elle est dans l'air du temps? Pourquoi, en fait? Pourquoi, tout simplement? Est-ce que c'est pour tromper la solitude de la lectrice que vous êtes?
Alors, la question est-elle dans l'air du temps? Je pense que les salons de thé sont à la mode. Les clubs de lecture, peut-être un peu moins. On a perdu, depuis quelques siècles déjà, l'habitude d'avoir des conversations un tant soit peu construites sur des sujets sérieux. C'est un exercice qui ne devrait pas être réservé aux littéraires ou aux profs de lettres ou même aux journalistes. Et c'est partant de ce constat, de ce manque un peu dans ma vie de discussion sur des thèmes littéraires qui m'étaient chers, que j'ai créé ce club qui m'est venu, en fait, dont l'idée m'est venue de manière tout à fait prosaïque pendant mon voyage de noces en Irlande. Et je me suis dit, mais vraiment, il me manque cette forme d'amitié intellectuelle que j'avais connue en partie pendant mes études et qui se perd après, une fois qu'on rentre dans la vie professionnelle. Du moins, c'était mon expérience.
Alors, de cette idée à la pratique, voilà, comment on fait pour mettre en place, comment on coopte, comment on appelle, il faut faire vœu de candidature, comment vous avez fait pour...
L'idée qui m'a animée, c'était que ça devait rester un club d'amis et d'amis d'amis. Et donc, le cercle s'agrandit pour ne pas devenir non plus immense, parce qu'on perd en qualité d'échange dès qu'on dépasse une dizaine de personnes.
Ah oui, j'allais vous demander quel est le quorum, quel est le nombre idéal.
Alors, idéalement, il faut, à mon avis, pas dépasser une dizaine de personnes. Ça laisse une forme de liberté à des personnes qui ne peuvent pas être là chaque mois. Et en même temps... on voit aussi qu'il y a une véritable assiduité parce qu'on prend plaisir à lire ensemble, en même temps. Il y a une véritable motivation qui se crée de se dire on est tout en train de lire le même livre et on va pouvoir en parler, on va pouvoir dire à quel point on est en colère parce qu'on n'est pas d'accord avec l'auteur ou parce que, au contraire, on partage son enthousiasme.
Alors, Mégane, vous avez intégré l'équipe en cours?
Oui, tout à fait.
Et vous avez été approché
Oui, alors...
Vous aviez déjà été repérée en tant que grande lectrice?
Alors, pas du tout, pour tout indiquer, hein, puisqu'on est entre nous. Avec Lucie, on s'est rencontré à un cours de danse. Donc, ça n'avait rien à voir et on a vite sympathisé. Et rapidement, on est allé boire un verre et elle m'a dit assez intimidée, j'aimerais te demander quelque chose. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va me demander? Elle me dit que ça fait des années qu'elle rêve de créer un club de lecture et que ça lui ferait très plaisir que je l'intègre. Et donc, moi, j'étais un peu impressionnée parce que je me suis dit, s'il n'y a que des professeurs de français, je ne vais pas avoir le niveau. Et je lui ai dit, écoute, franchement, ça m'intéresse beaucoup, je vais venir une fois et puis on verra. Et la première fois que j'y suis allée, j'ai adoré les échanges et depuis, je suis restée, je suis là tous les mois.
Ah oui. Donc il y a quand même un pas en arrière en se disant, est-ce que je vais être à la hauteur? Il y a, voilà, paraître d'une certaine manière, c'est comparaître. Et donc, parler de ses lectures, il y a quelque chose d'un peu intime. Alors on peut en parler à des amis, à des intimes, etc. Mais là, vous rejoignez quelqu'un, des gens que vous ne connaissiez pas.
Oui, c'est un peu impressionnant. Mais ce qui se dégage de ce club de lecture, c'est que finalement, on a chacune plusieurs niveaux de lecture. Lucie, par exemple, elle est beaucoup sur le style de l'histoire. Il y en a qui sont beaucoup plus sur le fond et il y en a qui ont une analyse un peu plus équilibrée. Donc, c'est intéressant d'échanger ensemble et de croiser les regards.
Donc, j'ai noté une fréquence mensuelle.
Oui, oui. Voilà.
Et qui choisit le livre à lire?
Alors, au départ, quand le club s'est créé, c'est vrai que... Il y avait une petite forme de timidité chez les autres membres, de se dire « je ne sais pas comment choisir un livre », etc. Donc j'ai commencé par choisir énormément les livres. Et puis au fur et à mesure, chaque personne a choisi les livres, a choisi un livre. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir une entrée thématique. Quand par exemple on veut travailler sur la femme ou les femmes et révolutions. Donc, on avait travaillé sur la révolution iranienne et ce que ça avait changé dans le quotidien des femmes iraniennes. On avait aussi travaillé sur le voyage avec là un récit de voyage au Cameroun. Enfin, voilà, il y avait... prochainement, j'espère qu'on pourra faire un mois sur le thème littérature et gastronomie.
Parce voilà. Que ça dépasse la lecture du livre. Vous allez au-delà, c'est-à-dire... Donc, il faut lire le livre, mais quand vous dites on a travaillé une thématique, c'est... Plutôt, c'est en lisant le livre, ça évoque des choses et puis ensuite, les débats peuvent dépasser le livre, j'imagine.
Oui, c'est des choses qu'on a à l'esprit. Par exemple, je tenais vraiment à ce qu'on travaille sur littérature et cheveux, donc les cheveux dans la littérature, et chacune a proposé des livres. Il s'est avéré qu'on a lu La Tresse et on avait, on s'est intéressé à cet aspect plus particulier. Voilà.
D'accord. Bah, il se trouve qu'autour de cette table... Lucie, qui était venue pour l'émission Médecine et littérature, elle aussi débute un club de lecture. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs, aux auditrices?
Donc, moi aussi, j'ai créé un club de lecture cette année. Pareil, avec une envie de me retrouver dans... Moi, j'aurais dit plutôt d'abord de retrouver un cercle amical d'amis qui sont toutes très différentes, mais qui lisent toutes, avec qui j'ai échangé déjà sur la lecture, et plus dans une envie de projet commun. Donc, nous, on a mis vraiment du temps à définir, mais d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez mouvant, exactement comment le club va se créer. Même au début, on avait discuté de faire de l'arpentage. Je sais pas si vous voyez, donc de vraiment découper un livre en sous-parties, de le lire chacune, même en étant présente. Bon, finalement, là, on est plutôt parti sur le fait de choisir de manière quand même collégiale un livre. Donc là, on vient juste de commencer. On a eu notre première session il y a quelques semaines. On est 7, que des femmes. Ça, j'y tenais quand même.
Ah oui, alors, et le ratio, le sexe ratio de votre club, Lucie et Megan, c'est que des filles.
On essaie désespérément de recruter des hommes, mais ils nous font toujours faux bon.
Est-ce que c'est un appel aujourd'hui?
Non, les femmes sont d'une fidélité à toute épreuve, et puis après, c'est vrai que de se retrouver entre femmes, ça a aussi des intérêts, dans la mesure où on se sent aussi, la parole est plus libérée, et on se sent à même d'évoquer divers thèmes. Voilà.
Moi, c'était important qu'on soit que des femmes. C'était un choix. Disons que j'avais envie que ce soit comme ça, parce que je trouve que notre parole est quand même souvent diminuée en présence masculine. Donc, c'était important que ce soit un lieu uniquement féminin. Et donc, là, on vient juste de commencer. Et donc, on a lu Frapper l'épopée, parce que je voulais proposer un livre que personne n'avait lu. Moi, je voulais qu'on commence comme ça. Donc, là, on a eu notre première, retour de lecture commune. Et c'était génial. C'était encore mieux que...
Alors, Frapper l'épopée, l'autrice.
D'Alice Zeniter.
Ok. C'est un livre qui...
Je voulais un livre de la rentrée littéraire. Et j'ai fait plusieurs propositions au groupe. Ouais. Et c'est celui qui a été choisi. Et moi, je trouve que les échanges ont été vraiment bien au-delà de ce que je pensais. C'était passionnant. Et vraiment, moi, je me suis rendu compte à quel point on lit avec qui on est. En fait, on voit plus dans le livre ce qu'on est nous. Et avec sa sensibilité personnelle. Et on n'a pas du tout vu la même chose dans le livre. Vraiment, avec des points de vue très divergents. Et c'était très enrichissant, le débat. Et ça m'a même fait un petit peu changer d'avis sur le livre, finalement.
Très bien. Et, en effet, ça exacerbe le plaisir et aussi le désir de lire, peut-être. Le fait de voir cette multiplicité de lectures. Est-ce que ça change aussi la qualité, la profondeur de la lecture, en sens de... est-ce qu'elle devient, je ne sais pas moi, plus cérébrale, plus sensible?
Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant que tu dises travailler. On a travaillé. Alors moi, je ne vois pas ça vraiment. Enfin, pour moi, ce n'est pas du travail, mais c'est vrai que je n'ai pas lu ce livre-là comme je lis d'habitude. J'y ai mis plus d'attention, d'attention au style. J'ai eu envie de prendre des notes pendant que je le lisais en me disant « Ah, ça faudrait que je me souvienne, que je me suis dit... » Donc je trouve que quand même, quand c'est le livre du club de lecture, on le lit différemment. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous.
Moi, pour la première fois de ma vie, je me suis mise à prendre des notes de lecture. J'ai copié Lucie, hein, vous voyez, elle a son carnet qui est bien rempli. Et on est quelques-unes à faire ça, pas toutes. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire ça parce que je me suis rendu compte que parfois, je lis d'autres livres entre celui pour le club de lecture et le club de lecture. Et après, j'ai tout qui s'en mêle. Et c'est vrai que c'est dommage quand on ne peut pas répondre finement à une analyse des autres, en fait, qu'on a peut-être partagée, mais qu'on a un peu oubliée. Donc, oui. Donc moi aussi, j'ai mon petit livre de lecture maintenant.
Moi, j'arrive avec tout le bagage des études littéraires. Donc, évidemment, pour moi, oui, lire un livre, encore plus s'il est intéressant, c'est un effort et c'est un travail, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est surexcitant, c'est euphorisant. Voilà, ça, c'est absolument enthousiasmant. Et j'aime aussi la fraîcheur de ceux et celles qui n'ont pas fait d'études littéraires et qui sont peut-être moins tatillons sur des détails et qui sont parfois d'une plus grande finesse dans les analyses sensibles, dans l'émotion brute. Et c'est ce que je retrouve chez mes amis du club de lecture. Et,
Alix, vous vouliez réagir?
Oui, j'ai une question quand je vous entends. Est-ce que vous prenez des notes à chaque fois que vous lisez un livre, ou est-ce que c'est seulement pour... les livres du groupe de lecture? Ou est-ce que ce plaisir-là de la notation, cette effervescence intellectuelle, en fait, vous la vivez pour chaque livre?
Moi, je la vis pour chaque livre. J'avoue que j'ai des carnets de lecture qui font maintenant deux valises entières.
Ah ouais.
Et j'ai toujours beaucoup compulsé. En fait, j'ai toujours aimé me rappeler des choses. Et donc, j'adore classer.
Etc. Et vous les relisez, ces livres de lecture, ces cahiers?
Oui, ça m'arrive. Ah oui. Je notais avant même des passages entiers qui me plaisaient. Et... Oui. Et il y a une seule chose que j'aime ranger dans la vie, c'est la bibliothèque.
Et lorsque vous débattez, là, vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans le milieu de la justice. voilà, il y a des plaidoyers, il y a des réquisitoires. Est-ce que parfois ça devient pas dangereux, mais au point de se fâcher ? Non, on est entre gens de bonne compagnie, on a tendance à... Mais est-ce que des fois la passion de la défense ou de l'attaque peut emmener à certaines...
Alors, se fâcher jamais, mais c'est vrai que parfois les débats sont assez animés. Notamment, je me souviens, le premier club de lecture auquel j'ai participé, c'était un livre que Lucie avait proposé, c'était « Tour et détour de la vilaine fille ». Et on avait des avis vraiment très mitigés. Il y en avait une, ça l'avait tellement dérangée qu'elle n'avait pas terminé le livre carrément. Et Lucie commence par dire « Ah ben pour moi c'est une des plus belles histoires d'amour de la littérature ». Et moi je suis sortie de mes gants, je dis « Ah non, pour moi c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire nocive ». Et on s'est rendu compte qu'il y avait des avis très variés, on a débattu longtemps sur ce livre. C'était très très intéressant, on n'avait pas du tout la même vision.
Oui, c'est un roman assez sulfureux de Mario Vargas Llosa, d'une relation absolument, alors qu'on dirait aujourd'hui absolument toxique, enfin, voilà, mais qui pour moi est d'une flamboyance incroyable. Et je trouve ça positif qu'on puisse se disputer à propos d'un livre. Je me dis que la démocratie n'est pas totalement morte si on arrive encore à s'écharper pour des mots.
Oui, la puissance de la littérature. En préparant cette émission... je vous ai envoyé d'ailleurs la lettre que le pape François a fait paraître l'été dernier, en fait, qui discute le rôle de la littérature dans la formation des séminaristes. Alors, pas de mise à l'index, pas de liste obligée, pas d'interdit. Hein. Comme toujours avec François, le texte est plutôt en proximité, en subtilité, c'est 13 pages à lire, en discernement. Et puis ça n'intéressera pas seulement les séminaristes, mais aussi tous lecteurs et lectrices, croyants ou non-croyants. Et je voulais vous en lire un extrait parce que ça fait écho à ce que vous êtes en train de dire. Je cite le pape. « Souvent, dans l'ennui des vacances, dans la chaleur et la solitude de certains quartiers déserts, trouver un bon livre à lire devient une oasis qui nous éloigne d'autres choix qui ne nous feraient pas du bien. Il y a aussi les moments de fatigue, de colère, de déception, d'échec. Et lorsque nous ne parvenons pas, même dans la prière, à trouver la tranquillité de l'âme, un bon livre nous aide à traverser la tempête jusqu'à ce que nous retrouvions un peu de sérénité. Et peut-être, cette lecture nous ouvre-t-elle de nouveaux espaces intérieurs qui nous aident à ne pas nous enfermer dans les idées obsessionnelles qui nous tiennent inexorablement. Avant que les médias, les réseaux sociaux, les téléphones portables et autres dispositifs deviennent omniprésents, l'expérience était fréquente, et ceux qui l'ont connue savent de quoi je parle. Il ne s'agit pas d'une chose dépassée. » Donc, je me dis, débattre de ces livres oasis. Vous voyez, je ne sais pas si vous... voilà, au début, le pape parle d'un livre oasis qui nous éloigne, qui nous fait dépasser nos difficultés. C'est vrai que dans le club de lecture... il peut y avoir de la tension entre les différents intervenants, mais est-ce qu'au fond, on n'arrive pas à retrouver toujours cette part d'oasis dans chacun des livres ? C'est-à-dire, l'oasis, c'est l'endroit où on va se désaltérer, mais bon, parfois, l'eau est amère, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, ça veut dire que c'est vital pour le pape, finalement. Si ouais, c'est une ça. Oasis, c'est que voilà, on aurait besoin de littérature, donc on aurait besoin de réfléchir, de partager, de rêver autant qu'on a besoin de respirer. Finalement, voilà, on a besoin de s'échapper, on a besoin d'intériorité, on a besoin de voilà. De...
Ouais. Et je saute sur l'occasion pour dire aussi, Lucie, tout à l'heure vous disiez, j'étais étonné de la diversité de lecture d'un même livre, et il y a cette phrase dans la lettre, c'est le lecteur vit l'expérience d'être lu par les mots qu'il lit, c'est-à-dire chacun lit des mots, mais on est aussi lu par les mots qu'on fait vivre dans notre imaginaire et dans notre l'imagerie mentale. Mais écoutez, je vous propose, comme dans tout club de lecture au 19e siècle, on pouvait faire parfois un intermède musical, je vous propose je vous propose une chanson qui parle de façon décalée de la littérature, c'est une chanson de Pascal Borel.
Je sais bien quelle épreuve. Il est abominable simplement pour qu'il pleuve. Des pages interminables, je sais le snob que c'est. tellement bouffi d'orgueil que c'est le ciel qu'il cueille lorsqu'il cueille un bleuet. Je sais, c'est un calvaire, il n'en finit jamais de gémir que l'enfer. C'est l'endroit désormais où vieillir de travers nous fait mourir plus beau, puisqu'il fait du chaos un reflet sur la mer. Te porteras, tu rasses, je m'en fous, je m'en passe. Bourdieu pour Del Baudelaire, c'est vilain, c'est vulgaire, la culture à l'aise. Proust, mais j'aime tellement Proust. Je sais, c'est un enfer de verbes entassés à tort et à travers. Le subjonctif passé, ce silence qu'il faut faire pour s'en aller marcher loin du supermarché vers l'ancien bord de mer. C'est tout qu'il faut chasser. Le temps laisse passer l'être les plus petites pensées pour se laisser renaître. C'est tout qu'il faut cesser pour entendre un chevreuil et la phrase de Vinteuil passer. Quand on vit les combats, je m'en fous, je m'en passe. Mal romantisme à l'air, c'est vilain, c'est vulgaire, la culture à l'époque. Mais j'aime.
Après une évocation sensuelle et moqueuse de Marcel Proust par Pascal Borel, Proust, auteur monument qui souvent est cité sans avoir été lu, nous sommes de retour avec quatre lectrices passionnées, Lucie, Mégane, Alix et Lucie, qui nous ont parlé à l'instant de clubs de lecture. J'aimerais à présent parler des autres moyens qui vous sont donnés d'assouvir votre prédilection pour la littérature. On parle souvent du pouvoir prescripteur de certaines voies médiatiques. Hein. Bon, nous, à notre petite échelle et modestement, par cette émission, on essaie d'y contribuer. Mais je me souviens encore des vendredis soirs du siècle dernier, devant l'émission Apostrophe, avec Bernard Pivot et des auteurs. Puis tout a été repris par Buñuel et Trapenard. Alors j'aimerais savoir, voilà, comment vous arrivez à avoir justement votre pile de livres à lire, parce qu'on est toujours en train de lire, mais en se disant qu'il y en aura un après, Est-ce que c'est des pages culture, des hebdomadaires, des quotidiens? Est-ce que vous êtes abonné à lire magazine? Je vous laisse sans voix.
Moi, Alice. Je pense que c'est les. Il y a certains réseaux sociaux. Par exemple, je suis dans un groupe de lecture, mais sur Facebook, moi. Donc, ce n'est pas du tout en vrai, comme ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais voilà, je vois apparaître sur la page de... ça s'appelle le Club des Incorrigibles Lecteurs, je crois. Je vois des titres apparaître avec plein de commentaires et parfois, ça me donne carrément envie. Je découvre des auteurs, des autrices, comme ça. Sinon, ce sont mes amis qui m'offrent des livres parce qu'elles connaissent mes goûts, et, ou ils d'ailleurs, parce que j'ai des amis garçons lecteurs. Et puis, je suis professeure de lettres, donc forcément, j'ai pas mal d'amis professeurs de lettres. Donc voilà, entre nous, on s'offre des livres. Hein. Et sinon, ce serait plutôt les festivals littéraires. Il y a un festival d'éco-poétique qui s'appelle Le Murmure du Monde, qui est dans les Pyrénées, et qui a lieu tous les ans au mois de juin, et qui à chaque fois me fait découvrir des auteurs et des autrices actuelles qui viennent, qui proposent des ateliers d'écriture. Voilà, vous faites une randonnée avec eux, vous ne savez pas qu'ils sont écrivains, et puis le soir, vous les voyez organiser une table ronde et puis parler de leurs livres, et ça désacralise un petit peu l'écrivain, et en même temps, ça permet de rentrer en littérature autrement, par une rencontre avec la personne qui écrit. Et voilà, j'ai découvert celui dont on parlera tout à l'heure, Miguel Bonnefoy, au Festival du Murmure du Monde. Voilà, donc les festivals littéraires, je trouve que c'est une belle porte d'entrée en littérature.
Et vous, parmi...
Et moi, j'ai une passion pour les librairies anciennes, avec les livres anciens, les librairies qui ne sont jamais classées. Et donc, il faut s'atteler... dans un travail de fourmi, à défaire les piles pour regarder. Donc souvent, mes idées de lecture me sont venues ainsi, ou alors en classant les bibliothèques de mon grand-père ou la mienne. Voilà, je suis assez peu friande de recommandations extérieures. J'avoue suivre quelques booktubeuses, mais généralement, en plus, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes goûts que moi, qui aiment les choses beaucoup plus sombres et... Et j'ai une prédilection pour les auteurs du 19e siècle, donc difficile de les rencontrer en festival.
Ah oui, c'est ça. Et vous, Mégane, est-ce que vous avez déjà rencontré des auteurs, soit dans des rencontres de librairies ou aller à,
alors,
à
ça
des salons, des festivals?
Arrivé, mais assez rarement. Moi, pour ma part, j'adore flâner à la librairie, mais la librairie bien ordonnée, contrairement à Lucie. Mais c'est un vrai plaisir pour moi, je me fais ça... Très très régulièrement, je passe mon samedi matin à arpenter les rayons et j'aime beaucoup aussi solliciter le conseil du libraire. Voilà, je lui dis un peu l'envie du moment et il me suggère un ou deux titres et puis après
toujours le même libraire, parce que quelquefois on peut avoir des...
Toujours le même
et libraire. Et il connaît vos goûts à force de...
Non, parce que c'est pas forcément le même, je vais dans une grande librairie, mais jusque-là j'ai jamais été déçue des conseils qu'on m'a donnés et justement ça m'a fait lire des livres vers lesquels je me serais peut-être pas tournée spontanément.
D'accord. Et vous, Lucie?
Alors moi, c'est un peu... Donc, il y a un petit peu de... Je flâne aussi en librairie, mais moi, on m'en offre beaucoup. J'ai la chance d'avoir une maman qui m'offre beaucoup, beaucoup de livres, en particulier à Noël. Et moi, je pense que dans une bibliothèque, il faut 50% de livres non lus. Donc, j'ai souvent plus de choses que je n'ai pas lues que de choses que j'ai lues. Donc, j'ai toujours quand même accès à...
La nouveauté.
À du choix. Et je crois, après moi, que je suis très sensible aux recommandations. Et d'ailleurs, là, Christophe nous a demandé de choisir notre livre de l'année. Et en général, moi, mes livres préférés de l'année, ça va être des choses où on m'a dit « Il faut absolument que tu lises ça » ou « J'ai adoré, j'ai pensé à toi » ou « On me l'a offert ». Et voilà, je crois que c'est beaucoup... Moi, je suis assez sensible à ça, quoi, aux conseils.
J'avais une question qui résonne un peu avec ce que vous venez de dire. C'est, est-ce que vous avez déjà lu des livres que vous trouvez formidables et en les fermant, vous dire « Mais... comment n'en ai-je pas entendu parler plus tôt? Est-ce que j'allais passer à côté ?» Avec toujours l'idée de dire, ben voilà, c'est toujours le livre merveilleux qui vous attend, que vous n'avez pas encore lu. Est-ce que récemment ou dans ces derniers temps, vous avez lu un livre en vous disant, mais pas un livre récent, mais un livre plus ancien qui vous aurait été conseillé, et pour lequel vous vous dites, mais bon sang, pourquoi a-t-il si peu de succès, si peu d'écho, à la fois médiatique ou...
Moi, j'ai ce sentiment énormément avec la poésie, parce que c'est un genre qui est très minoré et très peu édité. Et je suis persuadée qu'il y a des tas de talents actuels qui ne sont pas publiés faute d'intérêt commercial. Et parfois, je me suis demandé pourquoi certains poètes étaient un tout petit peu connus, mais pas plus que ça. Je pense à Claude Roy, alors des poètes qui sont aujourd'hui décédés pour certains. Christian Bobin serait un contre-exemple parce que lui a un véritable succès, y compris post-mortem. Mais au sujet de la poésie, c'est vrai que je suis assez attristée parfois de me rendre compte que c'est très peu lu et des personnes de talent ne sont pas écoutées.
J'avais une autre question. Est-ce que vous êtes fidèle à un auteur ou une autrice avec l'envie, alors qu'on vous lisez un livre, même rétrospectivement, vous retournez vers les livres écrits précédemment, un peu comme devenir un peu compagnon de route de l'auteur ou de l'autrice dans une espèce de relation fraternelle ou de sororité ou de fidélité, je ne sais pas. Est-ce que dire j'ai tout lu de cet auteur?
Mais c'est marrant que vous posiez cette question. Justement, moi j'ai amené un des livres, le dernier livre de Sally Rooney qui s'appelle Intermezzo, et j'ai tout lu d'elle. Bon, alors, elle n'a pas écrit tant de livres que ça, donc elle en a écrit 4 avant Intermezzo. Mais justement, j'en parlais en off tout à l'heure avec Lucie, c'est une autrice que je vois grandir en fait. Là, je trouve qu'elle a vraiment. Elle s'améliore de roman en roman et je vois. Même comment les mêmes thématiques reviennent, mais s'approfondissent. Et là, notamment, dans Intermezzo, elle parle de la foi. Je suis très étonnée de découvrir ce thème chez elle. Et j'ai l'impression de... Bon, elle est un peu plus jeune que moi, mais quand même, qu'on grandit un petit peu dans le même monde, avec un peu les mêmes références. Et voilà.
Très bien. Parmi les canaux d'information donc, qui concernent l'édition... vous nous avez parlé des recommandations, du bouche à oreille, des cadeaux, mais il y a aussi, on y vient progressivement, les prix littéraires. Quel est votre rapport avec les prix littéraires? Est-ce que vous les lisez systématiquement? Est-ce que vous les offrez facilement? Je me tourne vers Mégane. Est-ce que c'est un repoussoir en disant, vraisemblablement, et puis ça dépend quel prix? Parce qu'il y a près de 2000 prix littéraires actuellement. Ça va du prix Goncourt au prix du conseil départemental et au prix des assurances, au prix de la poste, etc.
Alors, ce n'est pas un critère qui m'intéresse particulièrement. Et quand j'ai lu des prix littéraires, c'est souvent qu'on me les a offerts pour mon anniversaire ou à Noël. Et ceux qu'on m'a offerts, je les ai détestés pour la plupart. Voilà. En revanche, je peux en conseiller un qu'on a lu au club de lecture. C'est une amie de mon club de sport qui me l'a conseillé, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Mmh. Celui-ci, j'ai vraiment trouvé magnifique et je crois qu'il a fait l'unanimité au club de lecture.
Oh, je ne l'ai pas aimé du tout, moi.
Mais pourquoi, Alix? Alors, je vois déjà, nous sommes déjà dans un club de lecture radiophonique entre Mégane et Alix.
Ah, c'est fou. Alors, il y a eu unanimité sur ce roman?
Sauf sur la fin. Alors, la fin, on s'est dit remboursé. Mais sinon, pour le reste, oui.
Ouais, c'est fou. Bah, moi, j'ai été très déçue parce que ça parle d'un artisan et j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune sensualité dans cette œuvre. J'ai trouvé qu'on ne sentait jamais la sculpture, on ne sentait jamais les matériaux, on ne sentait jamais les mains. Et moi, j'ai vraiment besoin en littérature de quelque chose de sensuel, dans le sens des sens, quoi, vraiment des cinq sens. Et là, ça m'a tellement manqué. Et puis, ça s'enchaînait, c'était de la narration descriptive. J'ai jamais eu de focalisation interne, j'avais pas d'identification aux personnages, je me suis pas attachée à eux, à part peut-être au personnage féminin, qui est quand même un peu intéressant. Mais voilà, moi, j'ai été super déçue.
Et vous, Lucie, est-ce que vous lisez les prix littéraires?
Alors, je n'ai pas lu celui-là, mais c'est vrai que j'ai... du coup, suite à cette question-là, je suis un peu allée regarder. Donc, c'est vrai que j'ai lu dans ma vie quelques concours. On m'en a aussi offert quelques-uns que je n'ai pas réussi à lire. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai surtout adoré les prix des lycéens. Je pense que j'ai une âme de lycéenne. Parce qu'en fait, il se trouve que la liste des Goncourt et des Renaud des lycéens, dedans, il y a beaucoup de choses que j'ai adorées. Beaucoup plus que dans les prix un peu plus classiques.
Voilà. Alors, je reviens à la toute première, à mon introduction, où Lucie avait parlé dans son club de lecture qu'elle aimait rencontrer des gens avertis différemment sur les réalités du style et de la vie. Les lycéens, les prisonniers, parce qu'il y a un concours des prisonniers, etc., seraient donc avertis sur la vie, auraient donc une lecture particulière et un choix particulier par rapport au grand public. Voilà. Parce que souvent, ce qu'on fait reproche au prix littéraire, c'est d'un peu le nivellement par le plus petit dénominateur commun. Alors que ce que vous avez l'air de dire, c'est quand le jury est fait d'une population peut-être.
Ben, je sais pas. En tout cas, moi, ça a fait plus écho pour moi les choix des lycéens. Et moi, je les trouve assez courageux. Ben, d'ailleurs, mon conseil de livre de l'année, c'est Triste Tigre de Neige Simon, qui a été élu, enfin qui a reçu le concours des lycéens, je crois. Et c'est un livre difficile et courageux. Je trouve que c'est un choix courageux. Je trouve les lycéens n'ont pas peur, en tout cas.
Ils n'ont pas peur. Eh bien, une pause s'impose pour que vous puissiez reprendre votre souffle, chers invités. Et je vous propose un départ vers les tropiques avec Laurent Voulzy.
D'auteur. Christophe Hein.
C'était le rêve du pêcheur chanté par Laurent Voulzy, qui parle sans doute des Antilles et nous rapproche du Venezuela, qui est le lieu du roman Le rêve du jaguar, un autre rêve entre le rêve du pêcheur et le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Car, chère Lucie, Alix, Mégane et Lucie, lectrices enthousiastes et généreuses qui nous ont raconté leur expérience du club littéraire, je vous avais donné des travaux pratiques. Vous deviez lire le prix Fémina 2024 et Grand Prix de l'Académie française, Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy, un livre qui est une fresque qui débute à Maracaibo, à l'ouest du Venezuela, à 80 km de la frontière colombienne dans les années 30, et dont la première phrase est la suivante. Au troisième jour de sa vie, Antonio Borras Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Première phrase. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, comme dirait Marcel Proust, où ça a débuté comme ça, et Louis-Ferdinand Céline qui avait fait ça, a commencé comme ça, et qui a biffé, et qui a dit ça a débuté comme ça pour le voyage au bout de la nuit. Donc, première phrase. Est-ce que vous êtes sensible à ces premières phrases? C'est peut-être cette première page, quand vous choisissez le livre, que vous déambulez dans la librairie. Et est-ce que cette première phrase de Miguel Bonnefoy vous a convaincu les suivantes? Qu'en avez-vous pensé de ce livre?
Alors moi, je rebondis là-dessus parce que cet été, j'ai enfin lu « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, que ma maman m'avait offert il y a des années. Et elle insistait pour que je le lise, toujours. Et je vais vous lire la première phrase de « 100 ans de solitude ». Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance dans la glace. Avec la glace, pardon. Et quand j'ai lu la première phrase du rêve du jaguar, je me suis dit, mais c'est drôle, on dirait vraiment la première phrase de 100 ans de solitude. Et en fait, il fait, en effet, souvent ça, c'est vraiment un procédé narratif de la prolepse. Il annonce un truc, il donne un espèce de destin à son personnage, et il nous dit, enfin, c'est comme si on avait le plaisir de ne pas être la dupe de l'histoire. C'est, on ne se demande pas ce qui va se passer, mais on sait ce qui va se passer, alors on se demande comment ça va se passer. Donc c'était assez rigolo de voir que voilà, ça faisait un peu clin d'œil, cette première phrase. Ensuite, je l'ai entendu parler de cet auteur, Gabriel Garcia Marquez, en disant qu'il avait inspiré. Donc voilà, ça se recoupe.
Souvent, c'est un lieu commun, c'est le réalisme magique sud-américain.
C'est ça. Ah. Ben voilà, mais moi, je l'ai découvert cet été, donc je ne connaissais pas. Ah. Voilà.
Lucie.
Alors, je ne me suis pas arrêtée particulièrement à la première phrase. J'avoue avoir été agréablement surprise par certains détails de l'histoire. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un réalisme magique qui était peut-être un peu trop magique pour être réaliste. Dans la mesure où il y avait, à certains moments, j'avais le sentiment que l'auteur prenait un peu la pause, faisait des descriptions assez dithyrambiques et qui manquaient de naturel. Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu agacée au cours de ma lecture. Après, voilà, c'est aussi un roman qui a plein de fantaisie. Mais voilà, je trouvais qu'il, parfois, il y avait des longueurs qui inutiles.
Megan.
Oui, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y avait des longueurs. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé la première moitié, on va dire, du roman sur le couple, donc Antonio et Anna. Par contre, la partie sur les enfants, clairement, je m'en serais passée.
Oui, parce que c'est une fresque
familiale. Oui, sur voilà. Plusieurs générations. Moi, je me serais arrêtée là, en fait. Après, j'attendais que ça rebondisse et je suis un peu restée sur ma faim. Donc ça m'a un peu déçue. Mais cette première phrase, je l'ai beaucoup aimée. Et pour tout vous dire, je l'ai lu plusieurs fois quand j'ai commencé le roman. Je l'ai trouvée assez forte. Et comme disait Lucie, bah effectivement, on se dit, ah, c'est fou, mais comment il va faire? Et effectivement, c'est tout le but du livre, c'est de nous expliquer ce destin qui est assez, assez extraordinaire, même si, comme dit Lucie, bah effectivement, c'est peut-être pas très, très, très réaliste. Mais ça fait du bien de lire des histoires comme ça aussi, je trouve.
L'enfant, donc, qui est Antonio Borges Romero, qui est abandonné, à un moment, au tout début du livre, il est dit qu'il est tout en lui était fécondité, robustesse et joie. Et j'avoue que ces trois adjectifs, moi en tout cas, exprimaient bien un peu certaines forces quand même du livre. Il y a beaucoup de fécondité, je ne dirais pas de faconde, mais de générosité, de sensualité. C'est un peu roboratif, plantureux dans son expression. La robustesse, bon, c'est quand même bien construit, il faut bien le dire. Et puis, c'est la joie, non? Non, enfin, je ne sais pas. C'est alors, il y a la procureure, Lucie, la procureure, qui est là pour condamner ce livre, va prendre la parole.
Eh bien, alors, justement, moi, j'ai trouvé qu'il était qu'il y avait, moi, à la place de trucs, il y a des longueurs, mais je trouvais que ça allait trop vite. Que, ouais. En fait, tout allait vite, que ces générations-là, elles passaient en un clin d'œil et qu'en fait, on ne sait pas vraiment... Il y a assez peu d'intime, vraiment. C'est ce destin extraordinaire-là. En fait, moi, je trouve que cette première phrase, elle est très à l'image du livre, c'est-à-dire, c'est une fable, un conte, voilà, cet enfant abandonné qui va avoir un destin extraordinaire. Et tous les personnages sont un peu comme ça. Avec moi, je trouvais vraiment un manque de véracité, un truc vraiment comme si je lisais un conte. Moi, j'ai l'impression de lire un conte. Et alors quand même, du coup, parce que moi, ça m'a...
Mais votre esprit d'enfance, vous avez perdu votre esprit d'enfance?
Oui, peut-être qu'il a disparu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout fait écho en moi, ces destins si extraordinaires, la naissance, pendant la Révolution, tout ça. Tout est comme ça.
Mais c'est très épique, en fait.
C'est très... Voilà. Mmh. Et moi, ça ne fait pas du tout écho. Mais par contre, du coup, je me suis quand même... J'ai pris la peine d'aller écouter des interviews de l'auteur. Et c'est la vraie histoire de son grand-père, ça.
Oui, c'est une vraie histoire, en fait. C'est sa famille.
Ouais,
c'est l'histoire de...
Alors, c'est son histoire familiale comme elle est racontée dans sa famille. Donc, il dit qu'il y a déjà, il y a cet effet de mythe familial. Et du coup, ça m'a quand même donné un peu plus de tendresse vers cette histoire qui, en fait, est quand même réelle.
Donc, les racines autobiographiques...
Et
puis, quand on l'entend parler, lui... Enfin, il a une verve quand il parle. Enfin, il raconte sa vie, il raconte la... Sa mère, son grand-père...
Mais je pense que c'est un héritage familial de se raconter comme ça.
Oui, je pense qu'ils doivent tous parler comme
familiale,
ça dans la famille. C'est un repas de famille avec eux, ça doit être extraordinaire.
Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Lucie, comme quoi ça tiendrait du conte. Ça tient davantage peut-être de la mythologie, mais dans le conte, il me semble que les personnages sont beaucoup plus complexes. En tout cas, ce sont des archétypes, ils ont quelque chose d'un peu effrayant. Et il manquait peut-être cette complexité chez les personnages. Le fait que la narration soit toujours omnisciente et qu'on varie pas véritablement de point de vue, même si on s'attache à des caractères différents au fil du temps, c'est aussi ça qui m'a manqué et qui fait que le livre me semblait, ça va être un peu dur, hein, mais inachevé quelque part, à force de s'être attaché à des détails.
Moi, j'aurais dit superficiel, un peu, mais c'est qui rejoint la même idée de l'inachevé. Je suis un peu, en même temps, bon, ça m'a pas trop plu, mais je suis un peu restée sur ma faim quand même. Je crois que c'était un peu vide, un peu superficiel.
Ah ouais.
Est-ce que ça vous a donné envie d'aller au Venezuela? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller dans cette ambiance équatoriale, ces lieux? Et puis surtout, est-ce que vous, quand vous lisez, je sais pas, il y en a qui, maintenant qu'on a tout sur Internet et sur son téléphone, regardez la carte, c'est où
Ouais.
C'est lieu,
Maracaybo,
voilà.
Est-ce que ça existe vraiment?
Est-ce que ça
Et puis cette mer-là qui rentre dans le pays, moi je ne connaissais pas du tout, hein. Je suis allée regarder effectivement.
D'accord. Bon, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. On a bien parlé de Miguel Bonnefoy et les auditeurs et les auditrices se feront leur idée. On peut quand même les inviter à lire ce livre. Mais je vous ai demandé pour finir de me donner votre livre de l'année 2024. Alors, le prix Radio Présence n'existe pas, mais si vous étiez membre du jury sur la liste des sélectionnés, voilà, quel serait votre choix, Mégane?
Alors, j'ai déjà parlé de Veiller sur elle, donc je passe. Un livre de 2023, je crois, mais que j'ai découvert cette année grâce à mon fameux libraire et que j'ai beaucoup aimé, c'est Perspective de Laurent Binet. C'est une enquête sous forme épistolaire. Je fais un petit pitch, très rapidement. C'est un peintre qui a existé, Il Pandormo, qui est retrouvé décédé dans des circonstances un peu suspectes en dessous de sa fresque. Et la fresque représente la fille du duc de Médicis, mais à moitié nue. Donc c'est un scandale pour l'époque, et en fait, il a fait un nu et il a mis son visage dessus. Et donc, c'est le bras droit du duc qui va, en envoyant des lettres de ci, de là, en France, à la royauté, aux broyeurs de couleurs, enfin, on voit toutes les professions qui interviennent, il va essayer de remonter le fil pour comprendre comment il est décédé et pourquoi il y a ce visage sur ce nu.
Très bien. Lucie.
Alors moi, c'est une lecture assez étonnante, court roman, de Maria Mabar, qui est connue surtout pour deux de ses œuvres, mais notamment celle-ci, qui s'intitule « Une si longue lettre ». Donc c'est un roman d'une Sénégalaise qui parle de la polygamie. Et c'est un roman sous forme, non pas d'un dialogue, mais oui, on pourrait dire en quelque sorte, d'un dialogue entre deux femmes qui s'adressent l'une à l'autre des paroles. pour parler de ce qu'elles ont vécu voilà, dans cette situation tout à fait étonnante pour nous, qu'est la polygamie et le fait d'être, de vieillir pour une femme, d'être délaissée, de voir une nouvelle, une jeune femme épouser celui qui était leur mari. Voilà.
Très bien. Alix ?
Eh ben moi, ce sera, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sera une intermezzo de Sally Rooney. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que bon, ça parle du deuil de deux frères qui ont perdu leur père et qui ont beaucoup de difficultés à s'entendre. Alors, ils ont 10 ans d'écart. Le grand frère est avocat, le petit frère est champion d'échecs, il est autiste. On parle beaucoup de neurodivergence dans ce roman. Ce joueur d'échecs va tomber amoureux d'une femme vraiment plus âgée que lui. En fait, à chaque fois que les personnages se parlent, il y a une voix off qui décrit ce qui se passe, qui se met dans la tête des personnages, qui analyse le dialogue en cours. Et c'est super profond et c'est très touchant et on est vraiment au plus près de l'intimité des personnages. Donc c'est une écriture qui est très particulière. Moi, j'ai jamais rien lu de tel et voilà, je vous le conseille.
Très bien. Et pour finir,
mais merci Lucie. Beaucoup déjà. J'ai déjà envie d'aller acheter les 3 livres.
Voilà, c'est ça.
Alors moi, du coup, je vous ai rapidement parlé de Triste Tigre, qui est vraiment un livre sur l'inceste, mais très juste et surtout très courageux, de Neige Sino. Et sinon, mon livre de l'année, qui n'est pas un livre récent, c'est L'Art de la Joie, de Golardia Sapienza, qui est un destin extraordinaire aussi, mais vraiment très magnifique. Une fresque magnifique de la vie de cette femme, voilà, que je vous recommande.
Bien, écoutez, nous arrivons au terme de l'émission. Je vous remercie toutes les quatre pour ce moment passé ensemble. J'espère nos échanges auront donné d'intenses envies de lecture aux auditeurs et auditrices qui se précipiteront, il et elle, chez leur libraire préféré ou à la médiathèque de proximité pour profiter de vos conseils. Vous nous avez appris que même si la lecture est une activité solitaire, ben son plaisir peut passer par des rencontres, des débats comme ceux d'aujourd'hui. Encore merci. Merci à Christophe Aubry, qui était à la technique et qui permet la captation de cette émission et sa réécoute sur le site de Radio Présence et sur toutes les bonnes plateformes. Alors, faites-le savoir et partagez cette émission sur vos réseaux. À bientôt.